RCF.
Bonjour, auditeurs, auditrices du Berry se raconte, avec Agora Défense et la vie militaire dans le Berry et le Cher. Nous retrouvons M. Bordereux pour cette seconde émission consacrée à Louis Bulland et à l'évolution de son entreprise. Monsieur Bordereux, bonjour.
Bonjour.
Merci encore d'avoir accepté de prolonger l'histoire de cette entreprise fondée par Louis Bulland. Vous la connaissez très bien, dans la mesure où vous avez terminé votre vie professionnelle comme dirigeant de cette entreprise qui maintenant s'appelle Nexter.
C'est ça.
Lors de dernière mission, nous avons évoqué la disparition de Louis Bulland dans des circonstances dramatiques. Que devient l'entreprise en 1944 ? Disparaît-elle ? Ses enfants lui succèdent ? Ou le gouvernement provisoire de la République française nationalise cette entreprise d'armement ?
Bon alors, évidemment, l'entreprise ne sera pas nationalisée. Hein, et donc, je vous avais dit, Louis Bulland, il meurt à l'âge de 70 ans, mais sans descendance, sans aucune descendance. Et après donc, le départ des Allemands, la veuve Bulland, elle, qui habite donc, le château de Savoie à Villabon, tient à conserver les établissements Bulland.
Alors justement, c'est donc sa veuve qui reprend la tête de l'entreprise. Si je puis me permettre, a-t-elle la compétence, mais surtout l'envie de reprendre l'œuvre de son mari ? Question difficile.
Oui, alors évidemment, la veuve Bulland n'a aucune compétence dans le domaine munitionnaire. Donc elle confie la direction générale des établissements Bulland à un monsieur qui s'appelle André Thomas, qui était aussi dirigeant d'une fabrique de fraises dentaires qui était au Prado, juste à côté des établissements Bulland, qui faisait donc de la mécanique là, depuis 1933. Et donc les bureaux sont basés dans l'usine du Prado à Bourges, et il y a un chef de fabrication qui est déporté, si on peut dire, à La Chapelle pour assurer la coordination donc, de tout le site pyrotechnique. Or c'est un bon choix, hein, parce que l'entreprise va prospérer après-guerre, et les établissements Bulland se spécialisent principalement dans le chargement explosif d'obus et de bombes d'aviation.
Justement, à quel moment de l'histoire de l'entreprise apparaît Monsieur Luchaire ?
Alors, Monsieur Luchaire, c'est un grand mot, c'était une famille. Hein. On pense que la vente hein, des établissements Bulland, elle est consécutive. Alors, d'une part, à la volonté de Madame Bulland, et qui, donc l'âge aidant, hein, vu qu'elle est plutôt jeune, hein, de céder son entreprise. Et d'autre part, pendant cette décennie, là, entre 1950 et 1959, il y a eu trois graves accidents sur le site pyrotechnique de La Chapelle. Par exemple, en mars 1950, hein, il y a eu quatre opérateurs qui ont décédé hein, suite à une explosion d'un chargement d'obus de 40 mm anti-char. En 1953, vous voyez, donc trois ans plus tard, il y a un nouvel accident mortel qui se produit lors d'un tir d'essai de grenade à main. Hein, c'est le chef de production qui assurait le tir qui est tué sur le coup. Et puis enfin, en juin 1959, un opérateur hein, lors de brûlage de déchets pyrotechniques hein, qui va mourir à la suite de ses blessures. Donc je pense que c'est en plus c'est ces accidents parce que faire de la pyrotechnie c'est pas anodin. Voilà. Donc ça incite un peu les établissements Bulland à passer la main. Et sont donc confortés parce qu'il y a l'entreprise, donc la société Luchaire, hein, qui est un repreneur qui est sérieux, qui a déjà le pied dans l'armement. Et donc pour sceller cette reprise d'entreprise, donc des contacts entre les deux sociétés sont pris déjà dès 1957. Et puis ça sera donc officiel le 1er janvier 1960. C'est donc pas Monsieur Luchaire, mais donc la société Luchaire qui achète les établissements Bulland.
Alors justement, quelle est cette société Luchaire ? C'est un industriel de l'armement, un investisseur ?
Alors, l'origine, si on peut dire, de l'entreprise Luchaire date déjà de 1720, mais son essor, c'est franchement au XIXe siècle hein, qu'elle prend vraiment son essor, et qui n'a rien à voir avec les munitions, mais avec des lampes. Monsieur Léon Luchaire, qui était donc un des membres de cette famille, et qui est né en juin 1830 à Paris, il débute sa carrière, lui, dans les chemins de fer, comme inspecteur de l'éclairage. Donc il a pour mission d'améliorer les appareils d'éclairage en usage, hein, principalement dans les wagons de voyageurs. Donc il va créer donc l'éclairage aux huiles minérales. Alors il fabrique tout ce qui est lié à l'éclairage, appareils d'éclairage, des lampes, des lanternes et tout ça. Son fils, qui naît lui en 1861, il poursuit son activité et là il va agrandir l'entreprise. Début ouais. du siècle, 1913, il s'installe rue de la Chapelle, donc à Saint-Ouen, puis là, il commence à fabriquer des projecteurs pour de guerre, on peut dire une marine, pour des phares, pour des bouées, pour des balises. Déjà, il met un pied donc, dans l'armement, ce fils-là, Henri Luchaire. Et en fait, la société Luchaire va rentrer dans le domaine de l'armement en qualité d'équipementier, avec des dispositifs d'éclairage, mais ils vont faire aussi des masques à gaz pour les militaires. Ils vont faire des casques lourds, des casques légers pour les soldats. Ils vont faire des douilles, mais ça reste que du métal, hein, toujours. Oui. Hein, pas de pyrotechnie. Voilà. Mais pas du tout une entreprise munitionnaire. Donc l'opportunité de reprendre les activités des établissements de bilan, donc ça peut leur permettre de franchir ce cap. Donc les premiers contacts, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pris dès 1957. Et puis, c'est acté donc pour le 1er janvier 1960. Alors, comme ils ne sont pas encore très, très bons dans les munitions, vu qu'ils commencent tout juste, même s'ils ont regardé pendant 3 ans, donc c'est André Thomas, dont je vous ai dit qu'il était le PDG des établissements bilan depuis la sortie de guerre. Il devient donc le directeur général et il va former les suivants et il va se retirer en se quittant complètement en 1962.
Voilà. Alors, l'entreprise bilan devient Société Luchaire. Je ne me trompe pas.
Oui.
Je suppose que l'activité reste la fabrication de munitions. Alors, combien l'entreprise emploie-t-elle de personnel ?
Alors, en fait, le groupe Luchaire est vraiment pluridisciplinaire. Il a acheté cette usine de munitions à La Chapelle, plus le Prado, là, mais il a plein de. Il travaille dans divers domaines et puis il s'organise en divisions, dans des secteurs complètement différents. Il y a la division, par exemple, transformation des métaux, une autre qui fait du caoutchouc et plastique, du stockage et agencement, évidemment l'armement, et puis l'hygiène publique. Donc combien ça représente de personnes ? Donc le groupe Luchaire, dans les débuts des années 70, il est composé de 11 usines pour environ 6000 personnes.
C'est énorme.
Oui, et dans le début des années 80, il compte 7000 personnes réparties dans 18 usines. Alors, pour être plus précis, sur la division armement, qui est, elle, donc située à La Chapelle-Saint-Ursin et Bourges. Hein, oui. Donc, elle a 3 activités principales. Hein. Elle fait de l'étude et puis de la mise au point, évidemment, d'expérimentation de munitions, mais elle fait aussi de l'ingénierie pour la création d'usines et puis aussi d'amélioration d'usines existantes, souvent liées à tout ce qui est munitions. Et puis, enfin, ils font de la production, c'est-à-dire qu'ils font de la fabrication et du chargement de munitions de toute nature, hein, parce que là, ils sont vraiment diversifiés. Ils font de la défense, de l'artillerie, de la défense anti-char à courte distance, des têtes militaires pour des engins guidés, des fusées, et des amorçages, des grenades à main, des grenades à fusil, des bombes d'avion. Ils sont vraiment diversifiés dans tous les domaines. Mais pas que. Ils font pas que. Alors, quand je dis pas que, parce qu'à La Chapelle, par exemple, ils se sont diversifiés un petit peu et ils ont fait des coques de bateaux en résine. Pour une société, la société Octo qui est basée à l'île de Léron. Ils ont même fait des menuiseries aluminium. Le bâtiment de la sécurité sociale qui est boulevard de la République à Bourges, vous avez vu, il est toute la menuiserie alu vient du site de La Chapelle, qui est donc le site munitionnaire. Ah. Et bon, il faisait aussi de ça. Donc ça représentait quoi, La Chapelle, pour répondre à votre question aussi ça représentait sur les deux sites, hein, Chapelle plus La Chapelle plus le Prado, 600 personnes. Voilà ce que ça représentait.
Oui, 600 personnes.
Voilà. Alors, dans les années 80.
Alors, l'histoire n'est pas terminée. Vous avez dit les années 80. En effet, les établissements Luchaire disparaissent, mais Nexter lui succède. Alors, monsieur Bordeuil, je ne vous cache pas, la nécessité absolue que vous allez devoir m'expliquer ces transformations qui, je suppose, correspondent aussi à la restructuration de l'industrie d'armement en France et en Europe. Vous allez me dire, monsieur Dupeyra, vaste sujet. Oui, mais j'aimerais avoir quelques éclaircissements, disons quelques, une bonne synthèse, parce que c'est quand même assez complexe, j'en conviens parfaitement.
Ben avant de parler de Nexter, il faut parler du GIAT. Ah. Le GIAT, vous savez, c'est le groupement industriel des armements terrestres. Ça regroupait donc depuis 1971 les 10 principaux établissements industriels de l'armement terrestre. Hein, on est bien à l'armement terrestre. Et puis, donc ça, 71, et en 1990, déjà, grand changement, GIAT devient GIAT Industries, et qui est donc une société nationale de droit privé, hein, avec l'État encore comme
principal actionnaire.
Comme actionnaire à 100%, mais voilà. Mais déjà, l'année précédente, il y avait eu la chute du mur.
Oui.
La chute du mur veut dire qu'il n'y a plus la guerre froide entre Est et Ouest, et donc il y avait pléthore de munitions, pléthore de matériel et tout ça. Donc déjà, ça pensait beaucoup à se rassembler pour évidemment faire une meilleure restructuration au niveau armement terrestre. Et donc déjà, dès 1989, l'UCHR Défense, hein, qui s'appelait comme ça, et le GIAT, hein, le GIAT fait un contrat de location-gérance, hein, et la société devient l'UCHR Défense SA. Bon, il y avait beaucoup de synergies entre l'UCHR Défense et puis le GIAT. Hein, ils cédaient, bon, ils se tiraient la bourre par moment, ils cédaient sur d'autres contrats. Donc voilà, puis il y avait le même champ d'activité, donc c'était mieux de regrouper les forces industrielles et commerciales. Alors, malheureusement, je vous ai dit, comme la pré-chute du mur fait que ben, ça se ressent sur le chiffre d'affaires qui baisse d'année en année, et puis évidemment, en plus, qui est bien inférieur aux prévisions. GIAT Industries, donc avec l'UCHR Défense, ça essaye de se réorganiser, ça se réorganise, ça fait une branche, la branche munitions et pyrotechniques qui existait du temps de GIAT devient Euro Impact. On l'a fait même dirigé par Michel Pinault, qui était le directeur, l'ancien directeur de la division armement de l'UCHR. Et puis, bon, mais tout ça, il y a quand même baisse, hein, à tout niveau. 2 ans plus tard, 94, le Prado ferme.
Oui.
Parce que bon, la ville a besoin du terrain, hein, pour faire et des cinémas et ainsi de suite. Mais donc ça s'est revendu et pour se recentrer simplement sur une seule usine qui est donc La Chapelle.
Ouais.
Dans la fin des années 90, pour être plus précis en l'an 2000, GIAT Industries évidemment fait des plans sociaux, des plans économiques, et des plans stratégiques pour essayer de s'adapter à tout ça. Donc c'est la diminution de personnel bien sûr, mais aussi c'est la diminution d'établissements. Donc, il y en a, là, en 2000, il y en a 3 principaux qui ferment, hein, sur les 10 que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a Rennes, Le Mans et Salbris. Alors, surtout Salbris, parce que Salbris, c'était le pendant de La Chapelle. C'était là-bas qu'ils faisaient aussi les munitions de gros calibre et puis qu'ils faisaient l'activité qui se ressemblait le plus. Donc là, 2 gros sites, ça pouvait pas, c'était plus viable par rapport aux commandes qu'il pouvait y avoir. Donc, ce qui fait que ça, toutes les activités, Salbris a fermé, les activités de Salbris sont donc été transférées à La Chapelle en l'an 2000. Tout ça, eh bien, ça continue à baisser. Il y aura en tout 5 plans sociaux, quand même, entre 1990 jusqu'en 2005, le dernier 2002, hein, le PSES qui s'appelait, hein, le plan stratégique, économique et social. Donc on est passé de 14 000 personnes en 1990 à 3 500 en 2005, sur tout l'ensemble. Donc vous voyez un peu toute la diminution qu'il y a pu y avoir. En 2005, on repart sur un exercice positif, là on devient rentable. Et donc notre PDG de l'époque, pour éviter que GIAT Industries n'était connu que pour ses plans sociaux et c'était pas très très glorieux. Donc on change de nom et c'est là qu'on devient Nexter. Nexter, next comme futur, c'est l'anglais, et terre comme terrestre. Voilà d'où vient le terme de Nexter. Et voilà, donc après dans ce nouveau groupe Nexter, on retrouve Nexter Munitions.
Oui.
Donc voilà, dont fait partie La Chapelle. Et là, donc, ce groupe Nexter est fondé le premier, et donc son nouveau nom, le 1er décembre 2006. Donc là, ça tue définitivement la société l'UCHR Défense SA, qui était déjà entrée dedans, mais dans le groupe. Mais là, maintenant, ça devient Nexter Munitions. Et même, il y avait une autre filiale qui s'appelait Manurin, qui était de QC, oui, qui va fermer aussi. Et donc, et toute l'activité moyen calibre transférée à la chapelle.
Alors encore un immense merci à M. Bordereux pour ses explications précises, détaillées, qui nous font percevoir la réalité de l'industrie d'armement en France, avec un exemple local. Bonne semaine à vous, fidèles auditeurs du Berry se raconte, avec Agora Défense et la vie militaire dans le Cher et le Berry.